98.1 Radio X.
Morin Live. Real talk, talk real. The business of the world with Miguel Ouellette.
Ouais, puis comment ça te tend, là? Ça fait 2 semaines quand même, Miguel. Salut!
Salut, Dom. Effectivement, on a été loin du micro, mais près du cœur.
Oh, tout le temps. Tout le temps. T'as-tu une grosse journée?
Ouais, quand même, ça roule ces temps-ci. Là, on prépare déjà 2022. Donc, on a des dossiers par-dessus la tête.
Prof au HEC, rappelons-le, et économiste à l'IEDM. Plongeons d'entrée de jeu. C'était d'actualité. Pas le choix d'en parler. Référendum concernant la formule de péréquation en Alberta. Et là, tout indique, malgré qu'on n'ait pas les résultats en entier, au complet, que ça sera une victoire pour le oui. La question, c'est est-ce qu'on doit changer la formule de péréquation? Est-ce qu'on doit, en français, là, êtes-vous écœuré de donner de l'argent au Québec? Là? C'est pas mal. C'est une question qui est chargée, là, mais c'est une question qui s'adresse au Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de la formule de péréquation? Est-ce qu'on doit la changer? Est-ce qu'elle désavantage l'Alberta? Est-ce que le Québec fait, de quelque manière que ce soit, preuve d'ingratitude dans la matière?
Bien, en fait, je pense que la première chose à dire là-dessus, c'est la formule de calcul de péréquation. Là, il y a à peu près une poignée de bureaucrates à Ottawa qui comprennent ça. C'est une formule qui est extrêmement compliquée, qui est un peu aussi arbitraire parfois. Par exemple, au Québec, les revenus qu'on retire d'Hydro-Québec ne sont pas calculés dans la formule de péréquation. Donc ça, c'est totalement à notre avantage et l'Alberta le sait. Donc là, si on est un Albertain qui donne de l'argent au Québec année après année, puis on le sait, l'Alberta n'a pas reçu une scène en péréquation depuis 1964-1965. Donc, ça fait quand même longtemps qu'ils font vivre, en quelque sorte, le Québec, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et compagnie. Donc, ça se peut que les Albertains commencent à être tannés. Puis, je pense qu'il y a un point qu'ils donnent qui est extrêmement valide, c'est que le programme de péréquation, c'est un programme d'environ 20 milliards par année. Le Québec touche environ 13-14 milliards par année de ce programme-là.
Hein? Sur 20? Ouais.
Sur 20, étant donné qu'on a une population qui est plus grande, que les autres provinces. Mais quand on regarde par habitant, le Québec, on touche à peu près 1 300 $ par habitant, alors que le Nouveau-Brunswick, c'est 2 300 $. L'Île-du-Prince-Édouard, c'est 2 500 $.
Okay.
Donc, on n'est pas les seuls à en recevoir. Mais on est clairement une province qui en reçoit beaucoup. Puis contrairement à certaines provinces des Maritimes, nous, on dit non au pétrole, on dit non à l'exploitation des ressources naturelles, mais on prend l'argent du pétrole de l'Alberta. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui passe chez les Albertains.
Système de santé. Aujourd'hui, Legault va parler, entre autres, du système de santé, va présenter certaines idées. On va entendre. Ben, moi, ça ne m'impressionnera pas. D'après ce qui sort dans les médias ce matin, il va créer une agence publique d'infirmières. T'sais, je veux dire, des infirmières, ça ne s'invente pas, là. Il a beau créer le réceptacle, encore faut-il avoir du contenu. Il n'y a pas d'infirmière pour aller dedans, tout simplement. Peux-tu me résumer comme ça de mémoire? À l'IEDM, je sais que vous vous êtes penché beaucoup sur le système de santé dans les dernières années. Là, c'est comme si du côté de la CAQ, on allume. Oh my God, le système de santé marche mal, on va s'en occuper. Mais à l'IEDM, vous êtes penché là-dessus pas mal. Hein? Je ne sais pas si de mémoire, tu serais capable de me relater certaines trouvailles que vous avez faites à cet effet-là.
Ça fait quand même plusieurs années là, qu'on se penche sur ce problème-là, hein, parce que c'est un problème qui persiste, pas un nouveau problème que notre système de santé est malade. Maintenant, on parle beaucoup des infirmières, des super infirmières et tout ça. Nous, une des choses qu'on avance, c'est vraiment de décloisonner les emplois dans le système de santé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les super infirmières aient plus de pouvoir. On veut que les pharmaciens aient plus de pouvoir. On veut que les hygiénistes dentaires aient plus de pouvoir. On veut vraiment un décloisonnement, puis que ça ne soit pas juste les médecins qui aient le contrôle sur toutes les opérations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on veut aussi qu'il y ait plus de mobilité pour les travailleurs. Donc, que des infirmières, disons, de l'Ontario, des États-Unis, de la France ou d'autres pays soient facilement capables d'appliquer au Québec pour venir prêter main-forte. Puis ça devrait être la même chose, entre autres, pour des médecins, parce que c'est pas normal qu'il y ait des médecins qui aient été formés en France, qui appliquent ici, puis que ça soit relativement compliqué, puis même que des fois, le Collège des médecins dit simplement non pour protéger ses membres déjà établis au Québec. Donc ça, pour nous, ça n'a pas de sens. On devrait mettre la priorité sur l'immigration économique dans un sens. Puis, troisième chose qu'on dit, c'est surtout par rapport au financement du système de santé. Là, on le sait, c'est l'État qui gère le système de santé, mais c'est aussi l'État qui est l'assureur. Donc, c'est l'État qui finance le système de santé. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on croit que c'est correct que les gens aient accès à un système de santé qui soit « gratuit », entre guillemets, parce qu'on paye beaucoup d'impôts pour ça. Mais ce qu'on croit, c'est que les établissements devraient se faire concurrence entre eux. Donc, oui, que certains établissements soient gérés par le privé, comme c'est le cas en Suède.
Ben, oui, regarde, je vais admettre, ça c'est drôle. Je viens de trouver un rapport écrit par le député caquiste Youri Chassin, qui était président de l'IEDM dans le temps, qui dit que ça prend des hôpitaux privés au Québec parce que les hôpitaux privés prennent leurs décisions, mais les soins reçus sont toujours assurés et payés par le gouvernement. Des cliniques privées pourraient aussi fonctionner selon ce modèle ou offrir des services payants, comme c'est déjà le cas au Québec. Et ça fonctionne. Donc, vous avez quand même un député au moins de la CAQ qui croit aux hôpitaux privés. Je ne suis pas sûr qu'il va parler. En tout cas, moi, il n'y a pas de fonction ministérielle en plus. Ouais. Mais je tenais à faire le clin d'œil. Mais quand il était à l'IEDM, il répétait exactement ce que tu viens de dire.
Ben exactement. Puis ça tape sur le sens. Là, puis je parlais de la Suède qu'on adore tant. Mais c'est ça qui se passe en Suède. C'est des hôpitaux qui sont gérés par le privé. C'est des entrepreneurs qui gèrent ça parce qu'on le sait, si les entrepreneurs sont capables de gérer des restaurants, des compagnies d'avions, qui sont capables de gérer des magasins de vêtements, de l'extraction du pétrole et tout ça, ils sont capables de gérer bien des affaires, mais ils sont capables aussi de gérer des hôpitaux. Donc, une fois qu'on part de là, on peut se dire, bon, mais pourquoi c'est pas eux qui gèrent nos hôpitaux, mais que l'argent suit le patient? Donc, on donne l'argent au patient, on s'assure que le financement, que l'universalité du système soit maintenue, donc que tout le monde ait accès au système, mais maintenant, c'est pas l'État qui gère ça en bureaucrate, c'est vraiment des entrepreneurs qui gèrent les établissements privés. C'est ça qu'on a besoin au Québec, mais je pense pas que la réforme de M. Legault va aller de l'avant avec ça. Là, on parle encore de réformer pour enlever les fax dans le système de santé pour mettre des ordinateurs. Donc, on est assez loin de là.
Tes attentes par rapport à cet après-midi, je sais qu'il va parler de verdoyance. Toi, je ne sais pas qui le prédit, je ne sais pas si c'est toi ou un média, il va annoncer que c'est non, non, non et non pour l'exploration des hydrocarbures, là, c'est ça, c'est fini.
Effectivement.
Là.
Bon, ben c'est ça. C'est que mes sources me disent qu'il va annoncer qu'effectivement, on va aller de l'avant avec l'interdiction de l'exploitation puis de l'exploration des hydrocarbures au Québec. Donc, c'est vraiment, là, il y a des entreprises qui ont dépensé des centaines et des centaines de millions présentement au Québec dans leur entreprise parce qu'ils avaient reçu le permis du gouvernement pour commencer à forer ou qui étaient encore en discussion et tout ça. Ils ont dépensé de l'argent. Puis là, le gouvernement va venir les exproprier, puis d'une manière carrément injuste et inéquitable, parce qu'on ne va pas les exproprier sur la base de la valeur marchande de leur entreprise, comme on fait dans tous les autres secteurs. Là, c'est vraiment, on va racheter leur permis. Donc, imaginez si on avait fait ça avec les chauffeurs de taxi, ça serait levé dans toutes les villes au Québec. Mais là, vu que c'est le secteur de l'énergie, qu'on a une relation toxique avec lui, bien, on ne va rien dire. Puis, pendant ce temps-là, le plus ironique, là-dedans, c'est que les Québécois vont continuer d'importer plus de 300 000 barils de pétrole par jour, puis on envoie chaque année 5 milliards de dollars à l'Alberta puis aux États-Unis pour le gaz naturel puis le pétrole. Donc, on dit non à l'exploitation de nos ressources naturelles québécoises. On aurait pu en produire du gaz naturel au Québec. Là, on dit non, puis on va continuer à en importer de l'Alberta puis des États-Unis. Donc, pour moi, c'est réellement hypocrite.
C'est très hypocrite. L'histoire du gaz GNL, il va falloir aller au fond des choses à un moment donné.
Surtout que le prix du gaz naturel en ce moment est en hausse. C'est tellement pas un bon moment pour notre premier ministre d'annoncer ça. Ça, c'est une chose. Puis il y a une pénurie de gaz naturel aussi dans le monde. Donc, le Québec aurait vraiment pu profiter de cette opportunité en or-là. Puis on le sait, on l'a appris hier aux États-Unis, ils recommencent à réouvrir. Là, on n'entend pas trop parler parce que c'est Biden et c'est plus Trump. Mais ils commencent à réouvrir des centrales au charbon à cause qu'il n'y a plus assez de gaz naturel. Donc, au Québec, pendant ce temps-là, on se dit « Ah non, on ne veut pas exploiter notre gaz naturel, mais on aurait pu l'exporter pour éviter que les États-Unis reviennent sur le charbon dans certaines centrales, pour éviter que l'Allemagne continue à rouler sur le charbon, pour éviter que la Chine soit sur le charbon. » Mais finalement, on a décidé que non, au Québec, c'est pas pour nous, ça. Là.
C'est incroyable. Je viens de voir le rapport. C'est le EIA, Annual U.S. Oui. coal-fired electricity generation will increase for...
Oui.
On revient au charbon.
C'est ça. Ça n'a vraiment, vraiment, vraiment pas de sens. Puis le gaz naturel...
21% d'augmentation de production de charbon l'an passé aux États-Unis, alors qu'on s'en va à COP26. Et c'est capoté. Merci de me donner cette info-là. Il y a Bloomberg également qui en a parlé.
Ça va commencer à en parler. Oui, puis en plus, là, en ce moment, les investisseurs étrangers là, à l'international, ils ont les yeux rivés sur le Québec parce que là, ils se disent « Hey, si le gouvernement du Québec là, peut vraiment arriver puis commencer à exproprier des entreprises puis à pas payer la juste valeur marchande des entreprises, c'est épeurant anti-pair là, pour les investisseurs étrangers. » Donc, c'est sûr que ça affecte le secteur de l'énergie, mais ça affecte les autres secteurs.
Mais oui!
Les investisseurs qui sont, par exemple, dans le manufacturier, ils regardent ça aussi, puis ils se disent, tout d'un coup, que le Québec, il décide, là, il se lève un matin, il est marabout, puis il veut bannir le plastique partout, puis il dit aux manufacturiers, vous n'avez plus le droit de toucher au plastique. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour nous?
Ça donc, crée une ambiance d'affaires absolument hostile.
Ben oui, effectivement. Puis déjà, le Canada, c'est le pire pays de l'Est de l'OCDE pour les investissements privés qui arrivent ici. Puis le Québec, on est aussi pire. Donc là, on envoie vraiment un message là, qui n'a pas de sens. Puis à un moment donné, il faudra se réveiller au Québec puis dire, regardez, on aime bien mieux. T'sais, c'est comme, je ne sais plus si c'est à toi que je disais ça, mais quand on est un parent, on aime ça inviter nos enfants à la maison pour qu'ils fassent le party avec leurs amis, pour que ça soit à la maison, pour que ça soit contrôlé. Mais c'est la même affaire avec nos ressources naturelles. Si on les produit ici, on peut contrôler, on peut mettre des règles environnementales, mais à la place, s'ils sont produits aux États-Unis ou s'ils sont produits au Qatar, en Arabie Saoudite, on ne peut pas contrôler ça. Donc, il faut vraiment avoir un discours logique et rationnel là-dessus. Je pense qu'on tombe vraiment trop dans les motifs, puis là, on perd le nord, là.
Merci beaucoup, Miguel. On va surveiller ça après-midi, le discours de Legault. Merci.
Super, merci, Dom.
Salut, bye.